milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines pour se parler du lundi au vendredi, du sud au nord ou du nord au sud, comme vous voulez. Aujourd'hui, comme chaque vendredi, on parle éducation. Et aujourd'hui, plus spécifiquement, de l'éducation aux médias. Comment lutter contre les fake news à l'occasion de la semaine de la presse à l'école en France. Cette année, c'est d'où vient l'info? Eh bien, la question n'est pas nouvelle, mais elle est devenue urgente, tant les jeunes semblent perméables aux fausses informations et autres théories du complot. Emmanuel Macron a annoncé un projet de loi contre les fake news sur Internet. On en parlera un peu plus précisément. La presse se mobilise aussi à armes inégales face à la puissance, à la vitesse des réseaux sociaux. Et quant à l'école, quel rôle peut-elle jouer pour remettre l'info à l'endroit auprès des jeunes? Nous allons en discuter avec nos invités. Virginie Sassoun, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignante, sociologue des médias. Vous appartenez au CLEMI. Le CLEMI, c'est le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information, qui est à l'origine de la semaine de la presse à l'école, conjointement, il faut bien le souligner, avec le ministère de l'Éducation nationale. Donc, et le thème cette année, c'est donc d'où vient l'info? Une question de plus en plus complexe, hein, d'ailleurs, et qui laisse perplexes nos auditeurs, vous le verrez. Alexandre Michelin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur d'un média singulier qui s'appelle spicy.fr.
Oui, c'est une plateforme de vidéos indépendantes, de contenu original.
Vous allez nous expliquer ce que vous avez mené comme expérience d'ailleurs auprès des jeunes. Rose-Marie Farinella est au téléphone avec nous, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignante en école primaire et vous intervenez régulièrement auprès des enfants sur ces sujets. Vous nous expliquerez pourquoi d'ailleurs auprès d'enfants si jeunes et puis ce qu'on peut faire avec eux. Sophie Mazet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeure d'anglais dans un lycée de Saint-Ouen. Vous donnez des cours d'autodéfense intellectuelle depuis près de 8 ans. Vous avez du recul et vous nous direz aussi quel est le cheminement des fake news dans la tête des lycéens sur toutes ces années. Et en fin d'émission, la chronique de Marie-Rose Moreau. Pourquoi les enfants ont besoin de rêver et de s'ennuyer à défaut d'aller sur Internet? Quelques messages sur Facebook et bien évidemment notre standard est ouvert si vous le souhaitez au 33 1 84 22 71 71. Sur Facebook, c'est un sentiment de perplexité et d'impuissance qui domine. Klaus est en Louisiane aux États-Unis, il est originaire de Kinshasa et il nous dit que c'est vraiment très difficile de distinguer l'info de l'intox, que chacun peut raconter n'importe quoi sur Internet. Moi, je fais un effort pour ne pas croire si vite toute info, mais je la retiens pour comparer ensuite avec ce qui est dit à la télé ou à la radio. Et quand les infos concordent, je me dis que c'est la vérité. Bien vu, bien calculé?
Absolument.
Cédar à Kinshasa, les infos qui circulent sur la toile sont toujours douteuses, d'autant plus que nous ne savons pas vérifier ce qui les publie. J'ai étudié l'informatique, moi, de mon côté à l'université de Kinshasa. Je sais comment fonctionne le web, mais c'est pas donné à tout le monde. Guy Bernard est à Bordeaux et il nous dit qu'il faut rester vigilant et vérifier. Vérifier surtout avant de relayer, parce que sinon nous sommes également coupables. Voilà, vous pouvez nous appeler bien sûr pour dialoguer avec nos invités et puis les questionner aussi. 33 1 84 22 71 71 et pourquoi pas aussi si vous êtes enseignant et parfois si vous êtes sans réponse par rapport aux questions de vos élèves. Que disent les jeunes à Paris des fake news? Alexandra Sirgan a sondé des collégiens.
C'est une fausse nouvelle, par exemple, qui passe à la télé ou sur Internet. Bah, j'ai vu, par exemple, certaines fois sur Insta, il y avait écrit Karim Benzema en équipe de France. Bah, il n'y était pas.
C'est des informations fausses qui permettent à une population de croire en ces informations alors qu'elles sont fausses.
Je crois que Donald Trump, il avait dénoncé que BBC, il donnait de fausses informations. You are
fake news. Par exemple, il faut boire du lait de vache pour avoir des os musclés. La banlieue, c'est dangereux. Ça, c'est pas vrai.
Quand on regarde le journal ou qu'on lit un journal, moi je réfléchis pas, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux tout de suite.
En fait, je suis souvent sur les réseaux sociaux, voire tout le temps, donc parfois je me perds.
Comment tu t'informes toi pour pas avoir des fake news?
Sur YouTube.
Ce n'est pas une légende.
Et surtout ça là, les trucs Illuminati, ça c'est intéressant.
Les Illuminati.
Ça c'est pas des fake news?
C'est pas des fake news des fois.
Tu crois?
Bah Rihanna, c'est des Illuminati, il nous faut écouter des trucs. Quand on écoute leur musique aussi, on s'étonne pas qu'après ça me rentre vite dans nos têtes, il y a des chansons qui viennent de sortir ou qu'on les met à l'envers, bah on entend des Satan, nanana.
Est-ce que tu entends beaucoup de fake news dans ton entourage, autour de toi ?
Bah oui, la théorie du complot, Michael Jackson qui est pas mort. En fait, il va sortir un album, etc. Tous les médias et tout, en fait, sont des reptiliens ou j'en sais rien, moi. Ça me fait rire, en fait, mais après, ils vont bien se rendre compte plus tard que c'est faux, quoi.
J'ai une preuve formelle, ce sont des êtres différents. Mais si, je t'assure.
Théorie du complot. Récit explicatif concurrent de la version communément acceptée des faits. Thèse qui va placer en son cœur l'idée d'un complot sans jamais le prouver.
Pas des fake news, des fois. C'est pas des fake news.
Il vaut mieux en rire ou en pleurer, Virginie Sassoon.
Bah non, ces témoignages, en même temps, ils illustrent bien qu'il y a mille et une fake news, voilà, de la rumeur au canular, en passant par la fausse information, les tentatives de manipulation. Donc c'est vrai que c'est difficile de faire le tri pour les élèves, et d'ailleurs pas que pour les jeunes, hein, puisque une étude de Columbia qui a montré que sur Twitter, 60% des gens partageaient les contenus sans les avoir lus. Donc c'est un vrai enjeu démocratique et citoyen. Et face à une info, en fait, il faut dire aux jeunes toujours se poser la question « qui me parle ?» Et pourquoi ?
Et puis, puisque vous citez l'étude de l'Université de Columbia à New York, on peut aussi citer l'étude du MIT aux États-Unis, Massachusetts Institute of Technology, sur Twitter, qui démontre comment les fausses nouvelles sont diffusées plus vite, plus loin, plus profondément, plus largement que la vérité dans toutes les catégories d'informations, 6 fois plus vite que la vérité. 70% de chances supplémentaires d'être retweetées davantage donc que les véritables informations. Par rapport à la théorie du complot, si on revient déjà sur les définitions fake news, théorie du complot, Virginie Sassoon.
Bah, c'est-à-dire que fake news, si on le traduit, c'est quand même, comme je le disais, il y a une grande diversité, il y a une typologie de fake news, ça n'a rien de nouveau. Enfin,
les fausses informations, littéralement.
La question des fausses informations, elle a toujours existé. Aujourd'hui, ce qui change, c'est la propagation et l'industrialisation massive de ces entreprises de désinformation.
Théorie du complot, un peu plus spécifique ?
Complètement. Bah, sous la bannière fake news et toutes les entreprises de désinformation, il y a les complotistes, il y a ce qu'on peut appeler aussi la fachosphère. Ces gens-là se frottent, se rencontrent à certains moments, mais il y a quand même des réseaux qui sont bien construits et qui participent à cette désinformation globale.
Question aux uns et aux autres, enseignants et pas forcément enseignants, quelle est la réalité maintenant des fake news chez les jeunes ?
Extraordinaire. Parce qu'en fait, ils sont socialisés avec les réseaux sociaux. Ils ont commencé, vous l'entendiez dans le reportage, je vais aller voir si une information est vraie, je vais aller sur YouTube. Donc, ils sont baignés, en fait, dans cet univers où il n'y a plus de frontières entre ce qui est vérifié et ce qui ne l'est pas. Donc, ils sont en première ligne.
Ça touche quels âges, quels milieux ?
Ah bah, tous les âges, et puis je pense que Rosemary Farinella pourra en témoigner, et, parce que son travail témoigne bien de l'importance de commencer le plus tôt possible, puisque nous, on le voit, les enseignants qui sont impliqués dans la semaine de la presse et des médias dans l'école, et plus largement dans des actions d'éducation aux médias, dès le CE1, le CE2, même avant, on peut commencer à s'informer, ça s'apprend, et ça s'apprend dès le plus jeune âge.
Ouais. Mais qui est touché par les fake news en termes de milieu social. Aujourd'hui, le fait que les jeunes aient ces vies parallèles avec leur smartphone, quel que soit leur milieu social, ça veut dire aussi qu'ils sont touchés, y compris quand ils naissent et grandissent dans un milieu éduqué où les parents savent parfaitement faire la différence. Vous diriez cela ou pas, Virginie Sassoon ?
Bah, je pense que le rôle des parents, il est effectivement fondamental et dans la transmission de ce qu'est une belle manière de s'informer. Mais je vois Sophie Mazet qui va...
Vous enseignez en banlieue parisienne ?
Oui, alors, j'enseigne en banlieue, mais je ne vais pas faire de généralisation sur les élèves de banlieue ou quoi que ce soit, ce n'est pas du tout mon propos. Mais sur la question des parents, alors oui, effectivement, ça aide quand on a des parents qui peuvent un petit peu expliquer à leurs enfants comment naviguer dans cette
espèce d'océan. S'ils sont à la maison et qu'ils parlent de cela avec leurs enfants.
S'ils le font, mais même quand ils le font, en fait, le problème, c'est qu'une fois que leurs enfants sont sur Internet avec leur smartphone, en fait, il y a une hiérarchisation nulle des contenus sur Internet, c'est-à-dire que ce qu'on va trouver sur la première page des résultats de Google, c'est ce qu'on va avoir tendance à considérer comme le plus important, le plus crédible. Et ça, bon, voilà, il y a des études qui l'ont montré, qui ont déjà montré que quasiment personne ne va au-delà de la 3e page des résultats Google. Donc,
Et c'est tous les milieux. Il ne faut pas justement opposer les riches, les pauvres. Non,
non. C'est d'ailleurs ce qu'a montré. C'était l'objet de ma question, justement.
Donald Trump, c'est un milliardaire. Hein, et il utilise les fake news.
Sur la mise à plat de l'information, la non-hiérarchisation par les moteurs de recherche et par, en tout cas, la non-hiérarchisation journalistiquement parlant, vous pouvez nous réexpliquer comment ça fonctionne ?
Lequel algorithme de Facebook, de Google?
Oui, pour
en fait,
auditeurs.
C'est juste comment dire un système qui enregistre toutes les communications, tous les liens, et qui en fonction du nombre de liens qui vont vers un mot hiérarchise ce mot. Donc, si ce lien apparaît 1000 fois, ben là, il a des chances d'être en tête de la question que vous allez poser. C'est pour ça que ça peut être en tête sans être vrai. Ça veut dire simplement que 1000 personnes ou 10 000 personnes l'ont partagé.
Rose-Marie Farinella, vous, comment vous travaillez avec vos élèves en école primaire? Vous le disiez tout à l'heure, il faut les sensibiliser dès leur plus jeune âge, mais eux-mêmes, naturellement, ne s'intéressent pas spécifiquement à l'information à leur âge.
Quand on leur demande s'ils vérifient l'information, enfin quand je leur demande en début d'année s'ils vérifient l'information, personne ne vérifie l'information.
Bah, enfin, ils ont quel âge ?
Donc, c'est pas un réflexe. Bon, alors ils ont entre 9 et 10 ans.
Oui.
Je pense que si vous demandiez à beaucoup aux plus grands s'ils vérifient l'information, il n'y en a pas beaucoup qui répondraient ça. Donc non, c'est pas un réflexe et je pense qu'il y a des compétences et des connaissances minimales à leur donner comme un béaba et ça je pense que c'est important de leur donner ces connaissances minimales à partir de l'école primaire, effectivement. Et en plus, ils sont très réceptifs à ça. Ils ont des réflexions très pertinentes. Ils marchent à fond dans toutes les activités proposées. Et ce serait vraiment dommage de passer à côté de ça.
C'est ça. Ils sont naturellement réceptifs à la question d'où vient l'info. C'est une question qui les intéresse.
Ah, complètement.
Ils sont acteurs du jeu. C'est d'ailleurs une des forces de ceux qui fabriquent les fake news, c'est qu'ils les impliquent. Donc si vous leur apprenez à analyser, à décrypter, il y a de fortes chances qu'ils soient aussi des très bons acteurs.
Sophie Mazet.
Oui, alors ça les intéresse. Et puis aussi, il peut y avoir un côté jeu de dépistage, enfin jeu de déminage. Par exemple, la semaine dernière, j'ai une élève qui me soutenait mordicus que l'Académie française venait de légaliser la formule « ils croivent et ils voient ». Elle me disait « mais je vous jure, madame, je vous jure
ça,
que c'est vrai ».
C'était pour négocier leurs erreurs dans leur contrôle.
C'était pour négocier l'erreur d'une camarade, en fait, qui venait de dire « ils croivent ». Et voilà, elle me disait « je vous jure que c'est vrai, madame ». Je lui ai dit, écoutez, je vais vous démontrer que c'est faux. J'ai donc fait la recherche sur mon téléphone et je suis tombée donc, effectivement sur sa source, qui était un article du Gorafi. Le problème, c'est qu'elle ne connaissait pas le Gorafi.
Qui est un site parodique.
Qui est un journal parodique, voilà. Et donc, du coup, j'ai expliqué à la classe de seconde qui ne savait pas ce qu'était le Gorafi. Certains donc, ont dit, ah oui, c'est comme le Figaro. Donc ça, ils ont su faire le lien. Et donc, du coup, ils ont tous éclaté de rire. Et du coup, il y a eu un côté presque jubilatoire, en fait, à avoir appris à se méfier de ce genre d'infos et voilà.
Alors on va marquer
les élèves, les petits. on fait ça sous forme de jeu, c'est très ludique. Ce sont des apprentis Hoaxbusters, des détectives du web. Donc je rejoins ce que dit Sophie, c'est avec des indices, des hypothèses. Alors dans ma classe, ils sont masqués quand ils sont filmés, donc ils ont des masques magnifiques qui se fabriquent en début d'année. Et puis voilà, ça leur donne une importance incroyable. Et puis ils trouvent les indices. C'est ça qu'on peut même pas imaginer, mais à chaque fois je suis bluffée parce qu'ils trouvent toujours les réponses.
Vous restez avec nous, c'est la semaine de la presse à l'école. D'où vient l'info? On s'interroge. Comment lutter contre les fake news dès le plus jeune âge? Je vous propose une chanson d'un rappeur, c'est peut-être pas votre génération qui cartonne sur Internet, il s'est fabriqué sur les réseaux sociaux, il s'appelle Riles, notamment sur YouTube. Il ne donne quasiment jamais d'interview à de vrais journalistes, il remplit toutes les salles de concert qu'on lui donne, et il dit d'ailleurs qu'il n'a pas besoin d'être interviewé pour être célèbre. Et voilà, quand on s'intéresse à ce genre de phénomène, on se dit que le métier de journaliste musical est peut-être déjà mort. I do it for my dad and I do it for my mom. I do it for my habs and I do it for my sisters. I do it for my city and I don't forget Africa. I do it for my hoes, my thug, my bitches, my gangsters. I do it for the best. How could I forget my haters? And I do it for my uncles, they told me to fucking do it. Better have a degree, smarter thinking that I go nowhere. But I don't wanna be no one, been working like a Trojan man. I know you know it, no one less than I'm the only one. Yeah. But myself, I'm doing the job, but I don't want you beef your bitch and y'all buzz. I always see my bras, my niggas, my blood. Never for the first to shoot in my guts. I wanna be the peace, but can I be bad? This shit is for me, for you, and for us. I do it for the streets and for the suburbs.
Plus I do it for the passion and I do it for the passions. No, I never forget the pain from this fight. I do it for my family, I do it for my family, I do it for my family, that's why.
Il y a quelques mois, nous nous sommes lancés dans la traque aux complotistes. Pour cela, nous avons inventé un faux complot, une histoire qui raconte que la CIA aurait inventé le sida et l'aurait implanté à Cuba. Nous allons montrer à des lycéens le travail que nous avons réalisé et recueillir leurs réactions.
La CIA a inventé le sida pour en faire une arme bactériologique. Elle s'en est servie dans sa lutte contre les Cubains. Si l'Amérique est aujourd'hui prête à retourner à Cuba, c'est pour des raisons inavouables. Les Cubains ont découvert le vaccin contre le sida et les multinationales américaines entendent bien se l'approprier.
Qu'est-ce que vous en avez pensé?
C'est chaud. Franchement, ouais, bah, moi je pense pas que c'était à Cuba au début, je crois que c'était en Afrique, mais chaud.
On en avait déjà entendu parler, donc moi je pense que c'est vrai.
Tu as entendu parler de
cette histoire? Bah oui, il y a déjà un moment, on en avait déjà entendu parler, mais...
Ouais. Non, mais oui, j'en ai déjà entendu parler. En naviguant et tout, mais sinon je pourrais pas dire exactement.
Sur internet.
Ouais.
Est-ce que déjà le reportage c'est une information vraie ou pas? Parce qu'on dirait en fait c'est une fausse information.
Toi tu as des doutes sur...
Moi je pense que c'est faux en fait. Au début du documentaire on voit une source, mais après on n'en voit aucune autre. Est-ce qu'il y a d'autres sources réelles ou c'est juste des documents inventés comme ça?
Ce film qui a été vu des milliers de fois sur internet, c'est un mensonge. Une théorie du complot comme il en existe des milliers sur le web. Sauf que celle-là, c'est nous qui l'avons inventée de toutes pièces.
Il ne faut pas se sentir bête. On s'est tous fait avoir un jour ou l'autre.
Qu'est-ce qui a fait que vous y avez cru?
Le montage.
Le montage?
Ouais.
Il y a tellement de choses, comme vous dites sur Facebook, sur Twitter, etc. On ne sait plus en fait faire le tri.
On ne sait plus faire le tri. Alexandre Michelin, vous êtes directeur de Spicy.fr. Comment vous avez procédé pour ce documentaire Conspi Hunters, chasseur de conspiration?
D'abord, ça a été une prise de conscience avec Antoine Robin et Jean-Bernard Schmitt, les fondateurs de Spicy. Comment faire de l'info en 2015, quand le site se lance? Comment travailler la vidéo pour justement qu'elle soit partagée, accessible à tous, mais qu'elle ait été vérifiée, travaillée comme de l'information? Et c'est en faisant ce travail que Spicy est tombé de manière très forte sur cette problématique de l'information fausse, de la fausse information, voire de la manipulation. Et le travail qu'a fait Thomas, et le travail qu'on a tous fait ensemble, c'est de créer cette information, mais aussi de la suivre, de la traquer, pour voir comment elle était utilisée, comment elle était partagée. D'abord, pour la créer, on a fait appel à Sophie Mazet, par exemple, à Rudi Reichstag, et à Gérald Bonner, donc des gens qui ont... l'habitude de gérer ces informations fausses, de les analyser, de les disséquer. Et c'est comme ça qu'on a inventé ce hoax, cette fausse information, en mélangeant du vrai et du faux. Il y a vraiment eu des analyses à Cuba sur le sida, il y a vraiment eu des rumeurs de vaccins, il y a eu des approximations, des rumeurs manipulées, le tout bien mélangé, bien mixé, permet d'avoir ce que l'étudiant ou l'élève a décrypté. Mais au début, il y avait une source, et après, il n'y en avait plus. Et ensuite, ça devient du data journalisme, puisque là, on a pris une institution spécialisée qui a suivi la manière dont, en ayant créé un faux compte, on l'a fait circuler chez les différents spécialistes. C'est comme ça qu'on est tombé sur les fermes de fausses informations.
Ouais. Alors justement, le démontage, la démonstration par les faits auprès des jeunes, est-ce que ça fonctionne comme pédagogie pour lutter contre les fake news? On y revient dans un tout petit peu plus de 3 minutes chez 7 milliards de voisins. Ce sera juste après le flash. Et bien évidemment, les voisins, si vous souhaitez nous appeler pour témoigner ou questionner nos invités sur les fake news, 33 1 84 22 71 71. Restez avec nous. À tout de suite.
De voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur RFI. 7 milliards de voisins. Aujourd'hui, quelle éducation aux médias? Comment lutter contre les fake news à l'occasion de la semaine de la presse à l'école qui est organisée en France conjointement par le CLEMI, le Centre d'éducation aux médias et l'éducation nationale? On en discute avec vous, Virginie Sassoun du CLEMI. Rosemarie Farinella est enseignante en école primaire. Sophie Mazet, vous êtes professeure d'anglais en lycée. Et puis Alexandre Michelin, vous étiez en train de nous expliquer juste avant le flash, puisque vous êtes directeur de Spicy.fr, un média d'un genre un peu nouveau, vous nous le disiez d'ailleurs, comment faire de l'info différemment quand le média s'est créé en 2015. Et vous nous disiez d'ailleurs pendant le flash que ce sont les enseignants qui sont venus vous chercher pour monter ce faux documentaire sur le sida et pour démonter la trajectoire d'une fake news auprès des jeunes. Donc finalement, fabriquer un instrument de pédagogie pour lutter contre les fake news.
Oui, c'est Thomas Huchon qui a réalisé pour Spicy ce documentaire, ce reportage. Et très vite, je me souviens, on l'a lancé en décembre. En janvier, on a commencé à avoir des appels de professeurs qui disaient « ce serait vraiment bien que vous puissiez le partager avec nous parce que c'est très important que ce soit quelqu'un d'autre que nous qui le partage avec les élèves. »
Sophie Mazet, vous vous êtes particulièrement investie depuis plusieurs années sur ce démontage des fake news en tant que professeure d'anglais.
Oui, moi ça fait depuis 2010 en fait que je fais ça. Alors les premières années, j'ai fait ça un peu toute seule dans mon coin parce que finalement ça intéressait pas forcément les gens à grande échelle. Et puis depuis quelques années là, c'est un petit peu mieux. On a vraiment l'impression d'une sorte de réseau d'enseignants et puis de plein d'acteurs en fait qui se rassemblent pour parce qu'ils ont vu l'ampleur du problème. Donc oui, j'ai été sollicitée par Thomas Huchon qui était en train de préparer Conspi Hunter puisqu'il avait entendu parler de mon travail.
Parce que ça veut dire que vous concrètement en salle de classe presque tous les jours, vous êtes confronté à ça, à ces nouvelles croyances des jeunes.
Alors presque tous les jours, moi je suis professeur d'anglais quand je fais pas de l'autodéfense intellectuelle, donc c'est pas forcément tous les jours non plus, mais c'est vrai que ça arrive assez souvent. Et puis il y a peut-être des matières où c'est un petit peu plus fréquent, donc on y est confronté assez souvent.
L'autodéfense intellectuelle, pour reprendre le terme de Noam Chomsky, qui est décédé, qui était un linguiste américain très connu. Pourquoi je me trompe
Je crois qu'il n'est pas décédé, Noam Chomsky.
Il est toujours bien vivant,
il me semblait. Il est très vieux, mais il n'est pas
décédé. Pardon, il me semblait. En tout cas, c'est bien un linguiste américain, on est bien d'accord. Mais comment vous avez, justement, comment vous êtes parti de cette nécessité de monter un cours d'autodéfense intellectuelle avec les moyens, avec les armes des jeunes, finalement?
C'est-à-dire qu'il y avait une année où je lisais donc Chomsky, qui avait eu cette citation, qui disait « si on avait un vrai système d'éducation, on aurait des cours d'autodéfense intellectuelle ». Et j'avais écrit à Chomsky pour lui demander si ça ne le dérangeait pas trop, comme moi je pense qu'on a un vrai système d'éducation en France, que je fasse ce qu'il avait dit qu'il fallait faire en fait, et que j'utilise son intitulé. Parce que la même année, j'avais donné à mes élèves, dans le cours d'anglais de terminale, dans une terminale d'un bon niveau, des faux textes en fait de The Onion, qui est l'équivalent américain du Gorafi, qui existait je crois avant le Gorafi.
Donc, le fameux site parodique, qui parodie l'information.
Des articles avec de
fausses informations, mais qui sont énormes, mais c'est vrai que pour
énorme,
des jeunes,
mais
très drôle bien sûr.
Et puis, en fait, j'avais dit aux élèves, voilà, on a cinq séquences à faire pendant l'année, cinq thèmes différents. Puis à chaque fois dans le thème, il y aura un faux texte. Maintenant, votre job, ça va être de le trouver. En fait, je pensais que ce serait un jeu et qu'ils allaient le trouver facilement. Et c'est pas du tout ce qui s'est produit, puisque notamment, je me suis dit vraiment, le plus gros texte que j'ai donné, la plus énorme blague, c'était sur les élections américaines qui allaient venir. Et puis, il y avait un faux discours de Barack Obama qui avait été écrit par The Onion, qui se terminait par « fuck you ». Et là, je me suis dit, c'est évident, ils vont voir le truc. Ils l'ont pas du tout vu.
Personne ne s'étonne donc qu'un président américain puisse dire ça. Alors remarquez,
maintenant
avec Donald Trump, c'est bien possible.
Maintenant c'est très plausible, mais Barack Obama a quand même autrement plus de classe que ça, donc c'était vraiment pas possible. Et puis une petite main s'est levée au fond de la classe au bout d'un moment, on m'a dit « Madame, c'est un vrai votre texte ?» Je me suis dit « Bon, toi je vais te mettre 5 points de moyenne en plus. » Mais c'est vrai que c'était la seule qui a osé dire quelque chose, mais le problème en fait, je me suis rendu compte, c'est qu'il me faisait confiance. Parce que le reste du temps, je leur racontais pas trop n'importe quoi. Et donc c'est là que j'ai décidé de travailler sur la source. Comment finalement ne pas faire confiance a priori, mais vraiment toujours être en alerte, et comment par ailleurs ne pas réfuter a priori non plus, puisque c'est finalement la même chose.
C'est la vraie question, c'est la confiance dans les médias ou dans l'autorité qui a émis l'avis.
Simplement, parfois, une voix de journaliste, un ton de journaliste peut suffire
à
convaincre
les jeunes.
C'est ce qu'ils
disent. Vous avez entendu leur témoignage. Une fois qu'ils ont vu le film que Thomas Huchon a fait, ils disent « ça avait l'air vrai, c'est bien monté ». Ils avaient l'air très sûrs d'eux, c'est ce qui avait été travaillé avec Sophie, parce que Sophie a fait partie des Conspi Hunters. Et ça avait été travaillé justement pour jouer avec les codes. Et quand on ne sait pas, on voit le code, on se dit « ça doit être vrai ».
Et cette relation de confiance, je trouve que à quoi ça sert la semaine de la presse et des médias dans l'école, c'est à mettre en relation le monde de l'école et des médias. Et cette relation de confiance, elle se construit quand on se connaît. Et quand des journalistes viennent dans les classes pour expliquer leur métier, comment ils travaillent, et quand les élèves viennent dans les rédactions pour aussi comprendre voilà, tout le processus de fabrication de l'information, ça participe à cette relation de confiance. C'est vrai, comme le disait Sophie Mazet, les enseignants, ils sont très preneurs de ressources, très mobilisés. Il y a plus de 200 000 enseignants hein, qui participent à la semaine de la presse. Ça touche plus de 3 millions d'élèves. Mais aujourd'hui...
Avec une forte injonction du ministère de l'Éducation nationale. Néanmoins, c'est très institutionnalisé maintenant.
Hein. Mais il faut qu'il y ait un volontarisme, hein, sinon on va...
Mais justement, mais il faut qu'il y ait un volontarisme. Mais je pense que la question et l'urgence, c'est la formation des enseignants et les moyens ouais.
Et
qu'on
bien
donne
justement,
aux
j'allais
enseignants
vous poser la question.
Pour mettre en œuvre les actions d'éducation média à l'information. Parce qu'on le voit bien, vous, Sophie Mazet ou Rosemary Farinella, parfois ça repose sur le volontarisme. Il n'y a pas forcément d'heures de décharge allouées à cette éducation média qui, malgré tout, fait partie des programmes. Donc ça, je crois que c'est l'enjeu crucial.
Le gouvernement,
aujourd'hui.
Le ministère a annoncé davantage de moyens, de budget dédié à la question de l'éducation aux médias.
Oui, mais c'est très bien. Le ministère de la Culture a annoncé un doublement de son budget et les enseignants ont besoin des partenaires médias, des associations, des initiatives comme Spicy pour venir dans les classes, les aider, les soutenir et voilà, d'avoir des ressources sur lesquelles s'appuyer. Mais ça ne suffit pas.
Sur la question de la formation des enseignants, Rosemary Farinella, vous êtes enseignante en école primaire.
Oui.
À l'heure actuelle, qu'est-ce que vous constatez chez vos collègues? Quelle implication? Parce que ça implique aussi les uns et les autres enseignants d'être très à l'aise aussi vous-même avec la fabrique de l'Internet.
Non, ce que je constate, c'est que justement, il faudrait vraiment une formation massive des enseignants et des enseignants du primaire aussi, parce qu'on a tendance à les oublier. Et je vois autour de moi, quand je parle de mon projet et tout, les enseignants autour de moi ont un peu peur de se lancer dans des expériences comme la mienne.
Et que cela se rajoute à tout ce que vous avez déjà à faire, à tous les programmes que vous devez réaliser avant la fin de l'année, programmes scolaires, non, en tant qu'enseignant.
Mais alors le rôle du CLIMI, c'est aussi de faciliter cette appropriation. Excuse-moi Rosemary Farinella, je t'ai coupé juste pour expliquer le rôle du CLIMI qui est vraiment de former les enseignants et de mettre à disposition des enseignants des ressources pédagogiques pour faciliter la mise en œuvre d'actions. Reste que c'est pas toujours évident et il faut avoir
comment
une formation.
Comment vous incluez ça, vous, avec l'apprentissage du lire, écrire, compter, Rosemary Farinella?
Non mais l'éducation aux médias, c'est aussi c'est un apprentissage transversal. Donc ça peut s'intégrer complètement dans les cours. Quand on travaille, on débat, on argumente, on raisonne, c'est du langage oral, on fait du français. On peut faire des maths, on peut travailler sur les statistiques, on peut travailler sur... C'est pas du temps perdu par rapport au programme.
L'exemple de Sophie, pardon de vous couper, l'exemple de Sophie Mazet, vraiment ce qui nous avait beaucoup inspiré, parce que c'était une prof d'anglais. Et à partir de l'anglais,
ouais,
elle
quoi,
a fait décrypter les
fake news. On peut ne pas faire que des verbes irréguliers.
Bah, c'est-à-dire, oui, je suis partie de l'anglais, mais après, je me suis rendu compte que j'avais envie de faire plein d'autres trucs, en fait, à partir de cette histoire des fake news. J'avais envie de faire de la rhétorique, j'avais envie de travailler l'argumentation, l'analyse des images.
Mais ça, vous ne le faites pas en anglais, l'autodéfense intellectuelle?
Non, c'est un cours séparé, justement. C'est pour ça que j'ai eu la chance d'avoir une chef d'établissement qui a accepté mon projet. Elle m'a dit, bon, ça a l'air un peu fou, votre truc, mais enfin, on va voir pendant un an, et puis après, on verra. Et elle était assez ouverte d'esprit.
Fondée sur le volontariat?
Non. J'ai demandé à être payée parce que c'est des vrais cours. Et
non, mais
voilà.
Volontariat pour les élèves, je voulais
alors,
dire.
Alors oui.
Parce que ça, c'est une vraie question.
Mais je les recrute, en fait. C'est-à-dire que c'est un travail de titan au début d'année de passer dans chaque classe pour aller leur dire qu'il existe ce cours et qu'ils sont cordialement invités à venir. Je leur explique ce qu'on va faire, quel thème on va aborder. Et l'idée, c'est de leur donner vraiment envie de venir. Donc le volontariat pour les élèves,
c'est extrêmement important. Thomas Huchon, quand il fait ses tournées, si j'ose dire, dans les lycées, reçoit des mails de remerciements. C'est-à-dire que de la part des élèves.
Des élèves,
oui, qui le remercient d'être venus.
Ah, ils envoient encore des mails, les élèves.
Qui répondent, qui disent à leurs parents. Moi, j'ai des amis en Alsace qui m'ont dit « Ah, Thomas Huchon est passé dans leur école et mes enfants m'en ont parlé. »
Mais ce volontariat chez les élèves, est-ce qu'un jour, il faut que cela devienne une matière obligatoire en tant que telle, l'éducation aux médias, ou en tout cas un volet de la matière histoire-géo qui devient un fourre-tout, d'ailleurs, ou pas ? Ou est-ce qu'il faut rester sur cette façon de donner de l'appétit pour s'interroger sur les médias.
Mais moi, je trouve qu'il y a un dispositif qui marche très bien, c'est le dispositif des classes médias, c'est-à-dire d'avoir 2 heures hebdomadaires par semaine pour faire de l'éducation aux médias. Ça peut se traduire par la production d'un média scolaire. Et ça, c'est vrai qu'on parlait de pédagogie tout à l'heure, et quand on met les élèves, les jeunes en situation d'être producteurs de l'information, c'est ce qui fait vraiment qu'ils réalisent aussi tout ce qu'il y a, tous les choix qu'il faut faire, comment enquêter, comment écrire, les 5 W, les règles de base du journalisme. Et ça, c'est la meilleure prévention contre les fake news.
Mais à l'heure actuelle, ça repose sur le volontariat du côté des enseignants, le volontariat du côté des élèves. Mais il n'y a pas, par exemple, de volet dans la formation des enseignants sur...
Alors, ça existe parfois dans la formation des enseignants dans les ESP, mais pas dans toutes
pas
les
ESP. Pas de façon systématique.
Alors voilà, c'est sur la question des ESP, donc c'est là où les enseignants sont formés en formation initiale. Moi, ça m'est arrivé d'être sollicité par certaines ESP, parce que c'est local, en fait, c'est pas centralisé au niveau du pays, et c'est vraiment... si je pouvais avoir un combat à mener, ça serait que ça soit centralisé, en fait, que la formation des enseignants soit
donc
centralisée.
Donc systématique, aussi.
Oui, ou qu'on fasse appel à des gens qui accepteraient de venir faire cette formation. Moi, quand on m'invite dans les ESP, j'y vais avec plaisir.
Mercredi à Grenoble, j'ai assisté donc à toutes ces séances, j'ai participé, j'ai raconté ce qu'on avait fait, et c'est vraiment impressionnant de voir l'implication de ces futurs profs qui ont bien conscience que s'ils n'arrivent pas à se former ou s'ils sont pas prêts, ils vont se retrouver dans des situations
d'autant
compliquées
plus que
ensuite.
Avec le changement générationnel des enseignants, évidemment, on peut imaginer que ça va aller beaucoup plus vite parce qu'ils auront cette familiarité avec les réseaux sociaux. L'internet.
Alors, d'un point de vue systématique, le CLEMI diffuse dans toutes les ESP 40 000 exemplaires d'une revue qui s'appelle Médias et Informations. On apprend, et cette revue, elle doit évidemment être accompagnée par des enseignements intégrés dans les ESP. Mais on ne peut pas dire que rien ne se fait, mais... on peut dire qu'il faut faire plus.
Ouais. Et en même temps, ça fait quand même des années que les enseignants travaillent avec Internet, qu'apprennent d'abord eux-mêmes à repérer le copier-coller chez leurs élèves dans les devoirs qu'ils rendent, mais aussi enseignent à leurs élèves la notion de source. Ça, c'est quand même assez vieux maintenant.
C'est assez vieux, mais en même temps, il y a tellement
de... La notion de source en primaire, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'enseignants...
Non, peut-être pas à l'école primaire. Mais quand vous demandez une recherche anglais...
C'est assez vieux, mais en même temps, il y a tellement de nouvelles choses qui apparaissent que finalement, c'est un travail perpétuel, en fait. Et on peut compter pour ça sur la nouvelle génération d'enseignants, justement, qui ont grandi avec ces technologies. Finalement, c'est bien que ce soit des gens jeunes qui ont vécu avec ça.
La France travaille à l'heure actuelle, on a une proposition de texte de loi sur la confiance et la fiabilité de l'information qui sera examinée dans les semaines à venir. À quoi peut servir une loi anti-fake news à l'heure actuelle, notamment sur la lutte contre les fake news auprès des jeunes ? Virginie Sassoon.
Moi, je ne m'exprimerai pas sur le projet de loi en tant que tel. Ce qu'on peut saluer, c'est la mobilisation des pouvoirs publics pour, de manière générale, se mobiliser activement pour renforcer les moyens de l'éducation média à l'information, et qui ne se réduit pas à la lutte contre les fake news. Il faut quand même le rappeler, parce que là, il y a une obsession médiatique autour des fake news. Mais quand on parle d'éducation média à l'information, on ne parle pas que de lutte contre les fake news. On parle d'acquérir des réflexes qui forment des citoyens éclairés, et ça dépasse largement
s'intéresser
la question
à l'actualité en général. Alexandre Michelin,
je crois que c'est très important.
Mais il y a déjà une loi sur la liberté de la presse, elle est complètement obsolète, la loi de 1881.
Non, le monde évolue et c'est extrêmement important qu'il y ait un arsenal qui existe spécifiquement sur les fake news. Ce que nous avions démontré à l'époque, c'est qu'il y avait des gens dont c'était le métier de fabriquer des fausses informations parce qu'ils gagnaient leur vie comme ça. Donc s'il n'y a pas une loi pour
dire... Et ça, à l'heure actuelle, c'est passible d'une amende.
Absolument. S'il n'y a pas une loi pour dire...
On réprime la diffusion de fausses nouvelles.
Absolument. Et il faut absolument...
C'est déjà dans la loi.
C'est dans la loi, mais ensuite, il faut avoir les moyens de poursuivre, il faut avoir les moyens d'identifier. Et ça demande un arsenal juridique et aussi policier. Et c'est pour ça que c'est très important. Par ailleurs, ce qu'on voit dans les pays où il n'y a pas ces lois, alors il y a des journaux qui en profitent, le New York Times notamment, est devenu un peu le symbole de la lutte contre les fausses informations sous l'ère Trump, parce que les gens s'abonnent parce qu'ils savent que cette information-là est crédible. Donc il faut aussi travailler l'autre volet, c'est-à-dire que la crédibilité de l'information soit défendue par ceux dont c'est le métier. Donc ça veut dire aussi un modèle économique pour la presse et pour tous ceux qui font...
Votre point de vue néanmoins n'est pas forcément partagé par tous les journalistes. Le comité national du syndicat des journalistes est inquiet sur ce projet de loi, parle d'une menace autour de la liberté d'expression et de la liberté d'informer.
Mais je crois qu'il peut y avoir des avis très divergents. On n'a pas vu le projet, hein, donc il faut rester prudent. Mais ce que moi, je défends, c'est d'avoir un système qui permette de punir quand ça a été avéré. Parce que sinon, ça veut dire que c'est la liberté absolue qui veut dire qu'il opprime. Et puis, c'est la loi qui doit nous protéger.
Sophie Mazet, comment travaillent les autres pays à la lutte contre les fake news, notamment chez les jeunes, hein, puisque c'est vraiment la population qui est la plus touchée. Vous êtes professeur d'anglais, vous surfez pas mal quand même sur les sites d'information des pays anglo-saxons. Est-ce que vous communiquez avec des collègues anglo-saxons là-dessus ?
Non.
Non ?
Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, j'ai été contactée par des Italiens, des Suédois et des Danois, je crois, qui font pas mal de choses, qui sont très très préoccupés à leur échelle aussi.
Notre film a fait le tour du monde. Il a été passé en Suisse, en prime time, sur la télévision publique.
En Allemagne aussi, si, en Allemagne, ils sont très préoccupés au niveau de l'éducation, donc ils font pas mal de choses avec des journalistes aussi, mais là-dessus, je ne saurais pas vous en dire plus.
Ça a été une des grandes surprises
au Canada. Mais sur le plan institutionnel, est-ce qu'il y a des pays qui sont plus avancés que cela ?
Je n'ai pas l'impression je pense que la France est un des pays les plus sensibles. Ça tient aussi au fait que durant la campagne française, campagne présidentielle, il y a un certain nombre de candidats qui se sont élevés contre les problèmes des fake news. Mais je pense que la France est en pointe.
Notamment grâce à l'existence d'une organisation comme le CLEMI.
Je peux que dire
qui est un organisme, non, mais qui est un organisme
bien
public.
Sûr, hein. Oui, complètement, qui fait partie du réseau Canopée et qui s'intègre au ministère de l'Éducation nationale.
Rosemarie Farinella, sur la question de comment font les autres, les voisins.
Oui, je suis allée en octobre à une conférence mondiale sur l'éducation aux médias parce que j'ai reçu un prix mondial. Et donc j'ai écouté les propositions et les remarques de ce qui se faisait dans tous les pays, et bien je peux vous dire qu'ils se sentent aussi désarmés que nous. Et j'ai pas vu une expérience extraordinaire où un pays est vraiment à la pointe, plus particulièrement. C'est plutôt un constat d'être très, très embêté, quoi. Tout le monde se sent... un peu désemparé, quoi.
Est-ce que, avant de se quitter, vous pourriez les uns et les autres donner des conseils à des enseignants qui nous écoutent, Sophie Mazet, sur, par exemple, cette semaine, qu'est-ce que vous prévoyez avec vos élèves, des choses assez simples à mettre en place qui ne demandent pas des heures et des heures de préparation, mais déjà pour sensibiliser le questionnement des jeunes.
Ah ben là, je suis désolée, je vais être un peu décevante, en fait, parce que je pense qu'il faut des heures et des heures de préparation. Donc, c'est très décevant, mais je crois qu'à un moment donné, il faut ouvrir des livres, les lire, et s'auto-former, ou alors il faut faire cet effort, et je pense qu'il n'y a pas vraiment de raccourci en fait. Donc des choses très rapides comme ça, instantanées. Si on a envie de faire des choses, ben, y a le CLEMI, donc voilà, on va chercher des ressources si on veut aller au plus rapide.
Bien sûr, on note le site du CLEMI sur notre page. Rosemarie Farinella, vous en tant qu'enseignante en primaire?
Moi, je rejoins ce que dit Sophie. Hein. Pour moi, c'est un travail à long terme sur toute l'année. Et des raccourcis, je trouve que c'est pas suffisant, quoi. mais bon, déjà, s'il y avait quelque chose à faire qui dure un module qui est important et qui peut se faire effectivement plus rapidement, c'est l'éducation à l'image. Parce que c'est facile, ça mobilise bien les jeunes. Et vraiment, il y a tellement de choses à travailler et qui sont à la portée de tous les enseignants. Je veux dire, travailler sur le cadrage, travailler sur les photomontages, travailler sur la contextualisation des textes et des images, les fausses légendes et tout ça. Et il y a plein de ressources formidables sur Internet, mais vraiment, évidemment avec le CLEMI, mais avec France 24, les observateurs de France 24.
Justement, j'allais le dire. Voilà, France 24, c'est à retrouver sur le site france24.com, info, intox, c'est très bien fait. Ségolène Malter et Wassim Nasr, on leur avait donné d'ailleurs la parole sur le même sujet. L'année dernière, on avait enregistré notre émission à Tunis. Merci à vous tous d'avoir participé à cette émission, et bien sûr, nous notons toutes les infos importante pour vous, les voisins, les voisines, sur notre page RFI.fr, à la page des 7 milliards de voisins. Dans quelques instants, la chronique de Marie-Rose Moreau, ça sera juste après Higher Brothers.
What the f- Hey, hey, higher, hey, higher, hey, higher. There's no Skype, no Facebook, no Twitter, no Instagram. We use WeChat. Yeah, yo, Case, tell me your WeChat number. Aha! 我打开微信不是来听你哔哔这些的，我打开微信不是来听你哔哔这些的，我打开微信不是来听你哔哔这些的，我打开我打开我打开。
圈出声名牌包，衣服又卖掉皮，心灵鸡汤的作用基本为零，对于你赚钱的机会只给我不给你，没时间我打开微信不是来听你逼逼这些，而最终他成为代购，我没人挽留，箱子有这种前后，其实掉垃圾我都懒得删，网友撕皮叫西西锁三观虎斗，说句我财产的道路不小心暴露，没能够一帆风顺，一千个年轻人九百个辣妹，我现在还单身就白出来混，妈蛋还跟我聊骚，因为他妈天蝎座，他妈三天过五分我专门写几个，不来就上去了，打了个包里都骂了个好多门的月哥，收了个烟酒费电话都赖得过嘴，你别听黑多人好的嘞 business， 说这些闲话和你自己根本不像的，根本不像的，除非是跟我们商量个 business， 他们总是对着电话屏幕一眼高音的砸，为什么砸说你的发展的不再是假货，我打开微信不是来听你逼逼这些。
Vous écoutez 7 milliards de voisins sur RFI. Tout de suite, la chronique de Marie-Rose Moreau.
On est plus le fils de son époque que le fils de son père.
Parents, enfants, d'ici et d'ailleurs.
Enfants d'ici et d'ailleurs, on en parle chaque semaine avec votre chronique. Marie-Rose Moreau, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Les parents prennent-ils finalement suffisamment le temps de s'interroger et de se poser cette question-là en particulier, pas facile, pourquoi les enfants ont besoin de rêver et de s'ennuyer? Ça va à l'encontre de tout ce qu'on raconte finalement.
Oui. Ça va à l'encontre de tout ce qu'on raconte, puisque...
Il faut multiplier les activités,
les stimulations. Ouais. Et en même temps, les enfants, ils l'imposent toujours, quoi. Ils imposent toujours des manières de rêver et de s'ennuyer, même si ça prend des formes un peu différentes. Mais la nécessité qu'à certains moments, l'enfant imagine, soit comme ça, sans but précis, c'est vraiment quelque chose de très important pour, à la fois... pour le développement de la pensée des enfants, mais aussi pour le développement de leur imaginaire et de leur rapport à l'autre. Et je ne sais pas pourquoi, effectivement, ces dernières années, on a partout dans le monde, hein, je vois des enfants qui ont des agendas de ministres et qui sont dans une nécessité de performance, alors que la performance, elle ne vient qu'après, lorsqu'on est déjà dans quelque chose qui a un sens pour soi.
Vous pensiez à un exemple en particulier?
Oui, alors Farid, qui est un garçon qui est né après 4 ou 5 filles, c'est le dernier garçon, il est né en France dans une famille marocaine, et ses sœurs sont extrêmement brillantes et elles sont très adaptées à l'école, mais pas Farid. Farid, lui, alors au début on pensait que c'était parce que c'était un garçon, mais en réalité, il n'est pas comme ses sœurs, il a besoin de rêver, il a besoin de temps, il est toujours en retard, parce qu'il est toujours en train de penser à autre chose, et il gribouille souvent des tas de choses. Il aime bien avoir du temps pour dessiner, mais pour dessiner sans but, en fait. Et son rêve, Farid, dans la vie, c'est de dessiner, de créer des robes, des belles robes pour ses sœurs et pour les amis de ses sœurs. Donc, il a cette idée de créer. Il adore les beaux tissus et il voudrait faire des robes et des cafetans. Hein, c'est son idée.
D'ailleurs, on dit souvent à un enfant qui rêve, les parents disent, il rêvasse d'ailleurs. Hein, comment dévaloriser le mot rêve? À quoi peut bien servir le rêve de Farid d'une manière générale aussi aux autres enfants?
Alors, pour Farid, il a besoin particulièrement de vide. Il a besoin de temps, il a besoin de rêve. Et c'est comme ça. Il y a des enfants qui sont comme ça. Et d'ailleurs, si on accepte cette idée-là, eh bien, en fait, on leur permet d'avoir une rêverie créative. Mais effectivement, il ne faut pas dévaloriser ce qu'ils font. Et il ne faut pas leur faire un emploi du temps du mercredi après-midi où il y a 5 activités les unes derrière les autres. Mais pour Farine, l'école, par exemple, convoque ses parents pour dire « Écoutez, cet enfant, il rêve trop, il n'est pas adapté, il a toujours les yeux dans le vide, il va... »
Il est menacé de redoublement à ce point-là ?
Oui, et puis il va faire un CAP parce que manifestement, il n'est pas adapté au parcours général. C'est pour ça que je le vois, parce qu'en fait, à partir de là, Farid se désespère totalement. Il sait qu'il a besoin d'un bac pour être styliste et qu'il ne peut pas renoncer à son rêve.
Conclusion, il ne faut pas trop remplir les agendas des enfants, respecter leurs besoins de rêve et non pas de rêvasserie. Hein. Néanmoins, comment faire en sorte qu'ils aient le temps de rêver et comment répondre aussi, les laisser vagabonder, mais répondre aussi aux injonctions d'un système scolaire.
Alors, il y a les injonctions du système scolaire, mais dans une temporalité. C'est-à-dire qu'il est important d'imaginer que l'enfant il se développe et qu'il a besoin d'étapes et de temps. Donc oui, bien sûr, il faudra apprendre. Mais parfois, pour apprendre, il faut rêver aux petites voitures ou rêver... Farid, il rêvait aussi devant sa tablette en train de regarder des tissus ou des belles formes. Donc, c'est, au fond, c'est accepter que chaque enfant soit un peu différent et qu'il ait besoin de son temps à lui.
Et pourquoi pas ne pas perdre une heure à rêver avant de se mettre à ses devoirs? Ça n'est pas forcément si dramatique que cela. Et peut-être le faire dans ce sens-là, d'ailleurs, plutôt que de dire tu rêveras après.
Ah oui, bien sûr, on rêve avant, c'est bien sûr.
avant toute chose. Merci Marie-Rose Moreau. Vous publiez Il faut croire en nos ados pour leur permettre d'inventer le monde. Et puis vous dirigez aussi la revue L'Autre, où on retrouve de nombreux articles. Merci, on se retrouve la semaine prochaine.
Merci.
Et n'oubliez pas que vous pouvez réécouter toutes nos émissions sur l'appli RFI Pure Radio à la rubrique Magazine, où nous retrouvez bien sûr sur Facebook, Twitter, Instagram. Merci à toute l'équipe, Cécile Lavolo, Sophia Bédard, Romain Dubrac, Raphaël Lazizi. Lundi, on parlera du sucre. Il est partout dans notre alimentation. Et au-delà d'un problème de santé publique, ce qui nous intéresse, nous, dans l'émission, c'est comment l'industrie agroalimentaire est parvenue à nous faire aimer le sucre à ce point-là, y compris sur le continent africain d'ailleurs. On attend, j'espère, vos réactions lundi en direct à 10h10, temps universel. Merci à vous tous de votre fidélité, les voisins et les voisines. Dans quelques secondes, le journal sur RFI.